Et aujourd'hui, nous allons parler de, tout d'abord et principalement, de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ça viendra vers la fin de l'émission et j'y attache beaucoup d'importance. Et auparavant, nous allons parler de quelques saints. C'est une drôle de journée aujourd'hui. Vraiment, nous avons des saints étonnants, étranges, dont un très grand saint, Saint Cyrille d'Alexandrie. Mais nous avons aussi un roi de Hongrie, Saint Ladislas, que je ne voudrais pas négliger parce que c'est tellement spécial. Et j'aimerais aussi vous parler de deux saints extrêmement étranges, Saint Arialde et Saint Erlambeau, des noms absolument curieux, qui sont morts au début du millénaire, de notre millénaire, soit en 1066 et en 1075. C'était le premier Saint Arialde, un diacre, et le deuxième, Saint Erlambeau, un laïc, tout simplement, mais qui ont accompli une mission vraiment surprenante en Italie pour sauver l'Église des abus effroyables dont l'Église souffrait à l'époque. Alors, nous allons commencer par Saint Cyrille d'Alexandrie, patriarche d'Alexandrie, docteur de l'Église, père de l'Église. C'est un des piliers de la foi. Un des hommes qui peut-être avait un tempérament un peu spécial, mais justement peut-être grâce à ce tempérament un peu spécial, il a su rendre un service énorme à l'Église. Il a été tout d'abord un ermite, mais il n'est pas demeuré longtemps ermite. Son oncle, qui était le patriarche Théophile d'Alexandrie, l'a retiré de sa solitude. Il l'a ordonné prêtre pour en faire un des membres de son clergé à Alexandrie. Alexandrie, bien, je vous le rappelle, c'était une ville extrêmement importante d'Égypte. Je tiens à rappeler pour certains auditeurs qui ne seraient pas au courant, parce que on en parle de temps en temps, de ces églises chrétiennes, catholiques ou orthodoxes. C'était la même église, l'église catholique, l'église orthodoxe. Nous étions tous unis, n'est-ce pas, jusque au début de notre millénaire, jusqu'en 1054 environ. Et alors, cette église, cette grande église chrétienne occupait toute l'Afrique du Nord. Elle était très puissante en Égypte. Il en reste d'ailleurs 8 à 10 millions de chrétiens qu'on appelle les Coptes en Égypte. Et l'Algérie était catholique, la Libye, le Maroc, etc. C'était des pays chrétiens. Mais les musulmans ont envahi ces pays-là au 7e siècle, pas longtemps après l'apparition de l'islam et du Coran, et tout a été transformé. Donc, à Alexandrie, en Égypte, le patriarche Théophile était le chef de l'Église de la région, et son neveu, notre saint du jour, Cyrille, est devenu membre de son clergé et en 412, il a succédé à son oncle. Il se trouvait donc aussi en même temps un successeur de notre fameux saint Athanase dont on a déjà parlé. Ces gens-là étaient pris dans des moments très difficiles dans l'Église, où les schismes menaçaient de diviser l'Église autour de doctrines extrêmement importantes, à savoir si le Christ est Dieu ou s'il ne l'est pas, si la Trinité, c'est vrai ou si ça ne l'est pas, des problèmes vraiment fondamentaux. Hein. Alors, de ce fait, on peut dire que la même famille a gouverné l'Église égyptienne pendant 60 ans. Et ce polémiste qui est Cyrille d'Alexandrie avait quelque chose d'un peu dictatorial, faut l'avouer. Hein. Faut pas cacher les défauts de certains saints. Ça peut nous encourager, nous qui en avons beaucoup de défauts, moi du moins, et on se dit, ben, si on a autant de défauts, peut-être pourrait-on devenir des saints. Et, c'est consolant, n'est-ce pas? Et alors donc, ils ont pourfendu les Ariens, et à partir de 428, là, ils s'attaquent au nestorianisme. Nestorianisme, qu'est-ce que c'est ça? On sait qu'un prêtre nestorien était assez intime de Mohammed, de Mahomet. Hein. Le nestorianisme a eu une certaine influence sur la pensée musulmane. C'est les grands historiens qui nous le disent, les grands savants musulmans même le reconnaissent, n'est-ce pas? Et alors, le dialogue n'a jamais été le fort de Saint-Cyri d'Alexandrie. Il n'aimait pas tellement dialoguer de façon calme. Il attaque. Il aime démonter le raisonnement de son interlocuteur, puis il veut démontrer avec fougue son point de vue. C'était quelqu'un qui avait du caractère. Et son personnage excelle, n'est-ce pas, aux définitions claires. Quand on lit les textes assez difficiles à lire, il n'en reste pas moins que si on s'absorbe, là, ça devient très, très clair. Il divise pourtant, puis il ouvre finalement, on peut dire, l'époque de la grande réflexion, du grand raisonnement, ou de, si vous voulez, de la dialectique qu'on appelle byzantine, c'est-à-dire celle qui est propre à l'Église dite de Byzance. Et qui, qu'est-ce que c'est que cette Église de Byzance? Ben c'est cette Église chrétienne orientale qui dépend de Constantinople, comme les Latins dépendent, n'est-ce pas, de Rome. Hein? Mais c'était la même Église, unie dans ce temps-là, mais chacune avec sa tradition, cette façon de célébrer la messe différente qui existe encore aujourd'hui. Vous êtes tous au courant que la liturgie orthodoxe est splendide et demeurée grandiose. Alors, très peu enclin à comprendre la personne à laquelle il s'adresse, cet homme absolu qui était Saint-Cyri d'Alexandrie reste un excellent théologien dont le surnom est demeuré. On l'a appelé le sceau des pères, pas S-O-T, non. Ne vous méprenez pas, c'est le sceau dans le sens S-C-E-A-U, pour sceller la pensée des pères de l'Église, les grands maîtres de la pensée religieuse qui ont écrit et prononcé tant de discours et de sermons et de choses que ça en est extraordinaire. Je vous ai déjà parlé de la patrologie, c'est-à-dire l'ensemble des écrits des pères de l'Église. Ça peut couvrir un mur immense, et ça a été colligé, comme je vous l'ai déjà dit, au siècle dernier, par l'abbé Migne, un Français, qui a pu colliger ça dans les textes originaux latins ou grecs, hein, parce qu'il y a les pères latins et les pères grecs. Alors, ce grand maître, Saint-Cyri d'Alexandrie, aimait bien parler de la Trinité et de ce qu'on appelle l'union hypostatique. C'est un mot très difficile. C'est un exégète, un spécialiste de la Bible qui est très subtil. On trouve dans la patrologie de Migne, que je viens de mentionner, 6 bons gros volumes, in quarto, comme on dit, 6 bons gros volumes de ses œuvres. C'est l'un des meilleurs commentateurs des écrits de Saint Jean. Vous connaissez l'évangile de Saint Jean, si vaste, et ses épîtres si magnifiques, et l'Apocalypse, ce sont les écrits de l'apôtre Saint Jean, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Je signale ça pour les plus jeunes, ou des gens qui ne sont pas chrétiens, qui pourraient écouter cette émission. Et alors, c'est un spirituel, Cyri d'Alexandrie, qui dépeint le chrétien comme un être qui est divinisé. Mais ne nous méprenons pas sur le sens du mot divinisé. Nous sommes divinisés dans le sens que il y a une action qui est exercée au creux de l'âme chrétienne par le Verbe de Dieu, qui est le Christ, et par l'Esprit Saint. Et ainsi, on peut dire que l'âme est divinisée dans le sens qu'elle est habitée par la Trinité, et que la Trinité agissant dans l'âme du chrétien, l'âme en arrive à penser ou à avoir des désirs ou des aspirations qui sont modelés sur ce qu'on appelle la grâce, qui est au fond la présence même de la Trinité en nous qui est agissante. Hein? Le Père, le Fils, Verbe et l'Esprit Saint. Saint Cyri d'Alexandrie se constitue aussi comme un défenseur extrêmement puissant de celle qu'il appelle Madame Marie. C'est un très beau nom, au fond, pour la Sainte Vierge. Et ça a certainement contribué, cette attitude de sa part, à introduire au ciel cet homme violent, au fond, mais qui est un chantre inspiré de celle qu'il appelle aussi la nouvelle Ève, qui, par son fils Jésus, comme je viens de vous le dire, nous redonne la vie. On avait condamné Nestorius, celui auquel surtout s'est attaqué Saint Cyrille, patriarche d'Alexandrie, dont c'est la fête aujourd'hui. Et juste pour vous donner une idée du tempérament de ce Saint Cyrille, je vous ai dit qu'il avait un tempérament qui n'était pas facile. Alors, il écrit à Nestorius, à la suite du concile d'Éphèse, pour dire à Nestorius qu'il est condamné. Alors, son texte, car on a ces textes-là, hein, on les a conservés, ils sont au Vatican, dans la bibliothèque du Vatican, on peut les lire. On y a même des photos dans des tas de livres qu'on peut voir de cette écriture assez étonnante. Et alors, il libelle le texte à Nestorius, nouveau Judas. Il ménage rien, n'est-ce pas? Sur la Sainte Vierge, il a écrit une très belle lettre à des moines d'Égypte. Je vous ai dit qu'il était égyptien. C'est au moment du concile d'Éphèse, justement, ce concile qui s'est tenu en l'an 431. Donc, il écrit aux moines d'Égypte ce beau texte au sujet de la Sainte Vierge. Il dit, « Il est stupéfiant, à mon avis, qu'il y ait des gens pour poser la question, et on entend ça à la radio des fois, de la part de certains protestants de petites sectes, là, de petits mouvements spirituels un peu surprenants. Alors, il dit, « Il est stupéfiant, à mon avis, qu'il y ait des gens pour poser la question, la Sainte Vierge doit-elle être appelée Mère de Dieu ?» En effet, ajoute Saint Cyrille, si le Seigneur Jésus est Dieu, comment la Vierge qui le porta 9 mois et le mit au monde ne serait-elle pas mère de Dieu? Et comme on dit en grec, n'est-ce pas, théotokos, c'est de là que vient le mot théos, tokos, théotokos. C'est bien, dit Saint Cyrille, la foi que nous transmirent les saints apôtres, même s'ils n'utilisèrent point cette expression. C'est l'enseignement que nous avons reçu des saints-pères. Je vous signale que John Henry Newman, le fameux cardinal anglais du siècle dernier, éminent cardinal, très grand intellectuel, disait « Théologiquement, Saint Cyrille est grand. Les catholiques de toutes les époques lui sont redevables. » C'est un passionné que Saint Cyrille d'Alexandrie. À lui seul, le nom d'Athanase, son prédécesseur sur le siège d'Alexandrie, résume, comme je vous l'avais dit il y a quelque temps, la lutte qui a été menée contre l'hérésie d'Arius, les Ariens, pour faire triompher la doctrine définitive au concile de Nicée, ce concile qui s'est tenu en 325. Celui de Cyrille d'Alexandrie, le concile d'Éphèse, 431, demeure pareillement attaché à la condamnation de l'hérésie, cette fois-ci de Nestorius, comme je vous l'ai dit. Or, l'unité de la personne du Christ, une seule personne, pas deux personnes Nestorius prétendait ça. Puis la maternité divine de la Vierge, c'est pour ça qu'on peut dire de la Vierge qu'elle n'est pas simplement mère de son corps d'homme, mais alors on peut dire qu'elle est mère de Dieu parce qu'il n'y a qu'une seule personne. Ça rend pas la Vierge déesse pour tout autant, hein, pas du tout. Et on peut réclamer donc pour elle le titre de Mère de Dieu. Et c'est assez complexe, il faut lire certains textes pour mieux comprendre, je vous fais grâce de toutes les discussions qui se sont tenues autour de ça, ça devient trop compliqué. Mais en tous les cas, sachons qu'il y a eu chez Cyrille, à n'en pas douter, le désir plus ou moins avoué de reproduire ce modèle qu'il avait reçu d'Athanase. Il voulait être, comme lui, un défenseur intransigeant de ce qu'on appelle l'orthodoxie, la pensée sûre, la pensée véritable. Il voulait mettre l'autorité puis la puissance conférée par le siège épiscopal d'Alexandrie au service de la vraie foi. C'était un évêque qui avait la conscience profonde qu'il était, comme évêque, défenseur des vérités fondamentales qui font vivre le peuple chrétien. C'est pas simplement pour défendre des vérités simplement comme ça, mais ce sont des vérités vivantes. Hein? Cessons de s'imaginer qu'en défendant des choses vraies, on perd son temps. On perd pas son temps. On éclaire la foi que l'âme a et on lui permet, par son regard intérieur, de jeter sur le monde invisible un regard beaucoup plus amoureux, beaucoup plus ébloui, beaucoup plus émerveillé. Et ça permet ainsi simplement quand on se lève le matin, de mieux saisir, dans la mesure de nos pauvres moyens d'hommes, de femmes, croyants ou croyantes, qui est Dieu, jusqu'à quel point il est digne d'être vénéré, d'être aimé, d'être écouté. Et en associant donc les noms des deux patriarches Athanase et Cyrille, qui parmi les plus illustres de l'Église d'Égypte, la liturgie copte celle des chrétiens qui sont encore chrétiens là-bas, hein, malgré toutes les difficultés pendant 1300 ans depuis l'apparition de l'islam. Eh bien, la liturgie copte souligne ce parallèle. Elle dit que le lion a transmis au lionceau son ardeur combative pour abattre l'hérésie. Je trouve ça assez sympathique. Le lion, c'est Athanase. Le lionceau, c'est Cyrille. Et dans l'histoire de l'Église, bien, la figure de Saint Cyrille rejoint de fait celle des grands défenseurs de l'orthodoxie. En somme, revenons au sujet essentiel de tout ça, c'est que l'union du Verbe divin et de la nature humaine dans l'unique personne du Christ, c'est fondamental pour l'Église. Cyrille imprime avec éclat toute sa marque personnelle à ce qu'on appelle la christologie, c'est-à-dire la connaissance que nous pouvons avoir grâce à la révélation et à la tradition de qui était notre Seigneur Jésus, ce Jésus de Nazareth. Et Cyrille imprime, précise la doctrine de l'incarnation comme nul ne l'avait fait avant lui, dit-on. Il avait donc grandi dans l'ombre de son oncle, ce fameux Théophile, héritier d'Athanase. Il avait fait de longues études, Cyrille, langue grecque, grammaire, latin, rhétorique, philosophie, tel à l'université d'Alexandrie. Et quand on voit son œuvre, les 6 volumes dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la Patrologie de Migne, on se rend compte de l'immense génie de ce saint d'aujourd'hui. Sa mort est survenue le 27 juin de l'an 444. Il n'aurait pu définitivement clore le temps des controverses, sa mort. Mais hélas, ceux qui ont revendiqué son héritage n'avaient ni son envergure de théologie, ni le même souci de l'union. Et Dioscore, qui lui a succédé sur le trône d'Alexandrie, avait une christologie qui restait de manière intransigeante attachée à une autre courant de pensée dans l'Église. Puis de son côté, un autre évêque qui dirigeait à Constantinople, là au cœur de ce qu'on appelle l'Église orthodoxe aujourd'hui, dirigeait un important monastère et avait l'oreille du pouvoir impérial, mais pouvait encore moins que Dioscore reconnaître la pensée profonde de Cyrille. C'était très difficile pour eux. En tout cas, ces deux personnages et puis d'autres partisans extrêmes là, ont créé bien des problèmes par la suite, mais heureusement, notre saint d'aujourd'hui avait établi les fondements. En somme, on peut reconnaître Saint Cyrille d'Alexandrie aujourd'hui, lui reconnaître tout ce qu'on lui doit aujourd'hui pour apprendre à aimer Jésus dans tout ce qu'il est. Je vous lis maintenant un texte un peu complexe, mais qui mérite d'être lu. C'est un texte de Saint Cyrille d'Alexandrie, et qui résume sa pensée en somme. C'est l'Esprit qui nous fait un en lui. On dit souvent dans la messe que l'Esprit Saint doit nous unir, et le pape vient de donner une encyclique extrêmement importante sur l'union de tous les chrétiens. Voici ce texte de Saint Cyrille. Si un seul et unique Esprit habite en nous, un seul Dieu, qui est le Père de tous, sera aussi présent en nous. Par son Fils, il nous fera un entre nous et avec lui. Notre union mutuelle, par l'action de l'Esprit Saint, devient évidente pour ce qui s'accomplit en nous. Si nous renonçons à une vie toute charnelle, si nous obéissons à l'inspiration de l'Esprit, ne devient-il pas évident aux yeux de tous que nous avons renoncé à notre propre manière de vivre, en sorte que, par l'Esprit qui s'unit à nous, nous voilà transformés intérieurement en un autre homme. Nous méritons d'être appelés fils de Dieu, hommes spirituels, puisque nous sommes devenus participants de la nature divine. Ainsi, Sommes-nous devenus un dans le Père, le Fils et l'Esprit, un dans notre nouvelle manière de vivre, un dans notre élan unanime de prière, un dans la participation au corps du Christ, un dans la communion à l'unique Esprit. Il n'y a en effet pas d'union avec Dieu, si ce n'est en participant au don de l'Esprit Saint. Cet Esprit nous marque intérieurement comme d'un sceau mystérieux, et il nous reforme à la ressemblance de Dieu. Vrai Dieu, il procède de Dieu, et il s'imprime invisiblement dans le cœur de ceux qui le reçoivent, tel un cachet sur de la cire. Il communique ainsi sa ressemblance à notre nature. Il nous configure selon l'archétype divin et il restaure en nous l'image de Dieu. Christ est ainsi formé en nous par l'Esprit Saint qui nous communique sanctification et justice. C'est de Saint Cyrille d'Alexandrie, notre saint d'aujourd'hui. C'est écrit il y a 1500 ans. Maintenant, nous allons passer à un saint assez étonnant, un roi de Hongrie. C'est un roi sans prétention. Il a vécu de 1041 à 1095. Il n'est pas mort, très âgé, comme vous voyez. Personne n'a abandonné avec plus d'esprit évangélique le titre de roi et un tel pouvoir pour le donner à d'autres. Le roi de Hongrie, Béla, qui fuyait la violence d'un usurpateur, s'était exilé auprès du roi de Pologne, qui était son beau-père. Alors, ce roi Béla avait des enfants, notre saint d'aujourd'hui, Saint Ladislas, et Giza, enfin, peu importe, et ils ont reçu tous les deux, ces enfants-là, de leur mère, une éducation profondément chrétienne. C'est dire, ça peut encourager les mères d'aujourd'hui, là. Même un jeune prince et un futur roi qui va être mêlé à toutes sortes de choses garde de son éducation chrétienne qu'il a reçue de sa mère une marque, comme on pourrait dire, indélébile. Ça reste là. Alors, il y a une révolution qui ramène en Hongrie la famille royale qui était rendue en Pologne, n'est-ce pas? Et le prince André, qui était frère du roi, le roi de Hongrie, Béla, là, a été nommé roi à sa place. Alors, le neveu de ce nouveau roi, Ladislas, qui vivait maintenant au milieu du peuple hongrois, lui devait admiration et respect. Il allait prouver jusqu'où atteignait la noblesse, on peut dire, de son âme. C'était pas son père qui était redevenu roi, c'était son oncle qui avait usurpé. Et ce nouveau roi, le prince André, pour assurer que la couronne aille à son propre fils Salomon plutôt qu'à Ladislas, a voulu attenter à la vie tout d'abord de son propre frère Béla, qui devait être le roi. Et ce Béla finalement s'est révolté, le père de notre saint d'aujourd'hui. Alors il a levé des troupes, il a livré bataille à son frère, il l'a tué, il a repris le trône. Imaginez, c'était pas facile. Donc, le saint d'aujourd'hui a un père qui est assassin de son oncle. Imaginez, c'était dur dans ce temps-là. Alors, dans son âme de chrétien, Ladislas a éprouvé une grande douleur de voir que son père s'était vengé ainsi. Béla, le roi Béla, n'a régné que peu de temps, et alors, ce pauvre Ladislas s'est vu obligé de prendre le trône, puis de le prendre malgré que certaines personnes croyaient qu'il revenait à Salomon, le fils de son oncle, son cousin. Mais Salomon s'est rendu odieux, lui, par sa tyrannie, puis a été chassé par le peuple. Parce qu'il était un peu comme son père assassiné, André. Hein. Alors, notre saint Ladislas, lui, s'est effacé. Il a laissé la succession à qui? À son frère Giza, plus jeune que lui, mais qui meurt après 3 ans de règne. Alors là, les évêques, qui admiraient beaucoup Ladislas, les seigneurs, qui admiraient beaucoup son intégrité, l'ont supplié d'accepter la couronne. Et là, sa vaillance est légendaire. On l'a toujours vu défendre, le premier, son pays, à la tête des armées. C'est un patriote. Il est convaincu que la Hongrie a assez souffert. Les Hongrois ont assez souffert. Il a une prestance magnifique, et sa taille dépasse celle de tous ses soldats. C'est un homme qui devait probablement avoir plus de 6 pieds. Et afin d'épargner le sang de ses hommes, mais il n'hésite pas à appeler les chefs, les dignitaires, à des combats singuliers. Ses ennemis, il les prend seul à seul, afin que les soldats ne se battent pas. Il s'offre seul pour tous. Une clameur de joie salue son avènement au trône. Alors Ladislas a voulu établir dans son royaume la religion en même temps que la paix. Mais là, les Tartares puis les peuples voisins sont imaginés que ce serait pas compliqué que d'envahir les états d'un prince chrétien qui était toujours en prière et puis qui était si dévot. Alors, Ladislas, au contraire, est un homme de caractère, même s'il est profondément chrétien, mais il est un peu spécial, je vous préviens. Il recule pas devant ce qu'il considère une juste guerre. C'est pas un pacifiste absolu. Alors, il se voit refuser tous les moyens de pactiser. Il a beau discuter avec ses ennemis, rien n'y fait. Alors là, il combat les envahisseurs, il les refoule dans leur steppe, là, les fameux Tartares, et puis il chasse les Huns aussi, qui sont d'autres barbares. Il fait rentrer les habitants de la Bohême en Bohême. Il prend Cracovie, il dompte les Polonais, il dompte les Russes. Imaginez, il n'y va pas de même mort. Les Turcs sentent la valeur qu'il insuffle à son armée et ils ne s'engagent pas contre lui. Alors finalement, à chaque fois qu'il fait la guerre, comme ça, il ordonne à son peuple un jeûne de 3 jours accompagné d'ardentes prières. C'est un chrétien assez étonnant. Alors là, Ladislas a hâte d'en avoir fini avec tous ses ennemis. Il veut se livrer aux grandes œuvres de la paix. Alors là, c'est très important. On voit que c'est un très bon roi. Il s'occupe des arts, il s'occupe du commerce, il s'occupe de l'agriculture et surtout, par-dessus tout, il veut élever l'âme des Hongrois. Et par un code nouveau, il fait progresser l'idée de la justice. Et lui-même, il accommode les différends entre les différentes parties, n'est-ce pas? Avec une intelligente bonté, puis il secourt les familles ruinées. Il veut lui-même et il nourrit les pauvres. Il fait aussi bâtir des magnifiques églises. Et puis dans son palais, Ladislas mène une vie aussi austère que dans les camps. Imaginez, ce roi couche sur la dure. Il se tient en constante mortification. Il prie intensément. On assure même l'avoir vu soulever de terre. Bon, mais ça, on peut ne pas le croire si on veut. Mais sa gloire suprême serait de sacrifier sa vie au Christ. Or, en ces jours, il y a Pierre l'Ermite, le fameux prédicateur là, qui prêche la première croisade pour enlever aux musulmans les lieux saints afin que les chrétiens puissent aller les vénérer. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, les pèlerinages étaient très importants dans la mentalité populaire. Hein. Et alors, là, les princes qui s'engageaient, français, espagnols, anglais, ont envoyé au roi de Hongrie, notre saint Ladislas, là, une ambassade, comme au plus valeureux capitaine, pour le prier d'être le chef de l'armée de la croisade. Hein. Mais cette offre et cet honneur qui comblaient le cœur de Ladislas, faut comprendre que la fierté chrétienne de cette époque n'est pas la fierté chrétienne d'aujourd'hui. On avait une espèce de sens de la guerre qu'aujourd'hui, heureusement, on n'a plus comme chrétien, du moins je l'espère. Et alors, il lui fallut d'abord repousser une attaque des Bohémiens, de la Bohème. Et au cours de cette campagne, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort, le pauvre homme. Et le peuple de Hongrie, dans une grande douleur, a porté, croyez-moi pas, 3 années le deuil de son roi. L'un est diacre et l'autre laïque, comme je vous avais prévenu, n'est-ce pas? C'est Saint Arialde. Ari, A-R-I-A-L-D, et Saint Erlambeau, H-E-R-L-E-M-B-A-U-D, Erlambeau. Bon, ce sont deux, c'est la formule française que je vous donne, parce que ce sont deux saints de Lombardie, donc des Italiens, des saints vraiment étranges. Hein. Ils ont été les chefs d'un mouvement qu'on appelle le mouvement Patard. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement Patard? C'est au 11e siècle, hein, on se situe au 11e siècle. C'est un mouvement qui est contre le clergé simoniaque. Ce clergé qui vendait des faveurs, et qui faisait de l'argent et souvent de belles fortunes à vendre des titres et toutes sortes de choses. C'était vraiment pénible dans l'Église. Et alors, les hommes du parti Patard avaient été nommés par leurs ennemis patards, c'est-à-dire des gueux. des habitants du quartier des Fripiers. Les Fripiers, mais en latin, on disait pâté. C'est de là que vient patard. Bon, c'est là qu'ils avaient leur réunion. Bon, peu importe. Donc, il y a un mouvement patard qui endosse les bonnes idées de l'Église contre les abus. Donc, notre Arialde, de son nom de famille Alciati, est entré dans le clergé. Il a étudié à Milan, puis à Lens et à Paris. Et c'est à Milan qu'il devient diacre. La plus grande partie du clergé méprisait alors le célibat. On n'aimait pas le célibat à l'époque. Ça ressemble un peu à aujourd'hui. Et plusieurs de ses membres n'avaient pas peur de trafiquer les choses saintes. C'est ce qu'on appelle la simonie, n'est-ce pas? Des fidèles, qui étaient soutenus par Rome, s'en indignaient. Puis ils sont efforcés de réagir. Et c'est de là qu'est né ce fameux mouvement patard qui s'est déchaîné en 1056. 1056, ça vous rappelle que c'était en 1054 qu'il y a eu le grand schisme entre l'Église orientale et l'Église occidentale, ou si vous voulez, l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Quel triste souvenir. Donc, l'Église était en grande difficulté sur le plan moral. C'est pas surprenant qu'il y ait eu de ces séparations à ce moment-là. C'est la même chose. L'apparition du grand mouvement de réforme protestante est apparue à un moment où l'Église avait beaucoup de problèmes. Et alors donc, en 1056, le mouvement patard se déchaîne. C'est à la mort de l'empereur, ça. Alors, les meneurs sont en particulier notre saint diacre d'aujourd'hui, saint Arialde. Il y avait aussi le prêtre Anselme de Baggio, qui est devenu en 1057 évêque de Luc et qui deviendra pape sous le nom d'Alexandre II, un bon pape. Il y avait aussi, je l'ajoute, un riche laïc qui a apporté sa fortune à la cause et qui s'appelait Nazaire. Je ne vous dirai pas que Radio Ville-Marie se cherche un Nazaire, mais je n'en pense pas moins. Et alors, l'archevêque de Milan était, depuis 1046, un simoniaque, c'est-à-dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui faisait le trafic des choses saintes. Il s'appelait Guy. Et cet archevêque a porté plainte contre les faits et gestes de notre saint Arialde, qui, dans la région de Côme, dans le nord de l'Italie, ameutait le peuple contre les mauvais prêtres. Il s'est tenu un petit concile à Fontanette auprès de Novare, qui a sommé Arialde et ses amis de comparaître. Ils refusèrent. On les excommunia. Alors là, ils en ont appelé à Rome, qui a envoyé deux légats dans la grande ville de Milan pour enquêter. Et l'un d'eux, c'était pas n'importe qui, un des deux légats. C'était le fameux Hildebrand, qui est le futur Grégoire VII, l'un des plus grands papes bénédictins de tous les temps. Et puis, cet Hildebrand était un ami des principes. Et puis, il accepte peut-être pas les procédés des patards, vous verrez pourquoi. Mais c'était un homme, un saint homme. Et alors, l'excommunication qui avait été prononcée lors du concile de Fontanetto, là, a été écartée. Alors, notre saint du jour n'a pas été excommunié longtemps. De nouvelles réclamations menèrent une nouvelle commission pontificale qui était présidée cette fois-ci par Saint-Pierre Damien. Et notre saint Arialde, notre saint diacre d'aujourd'hui, sapait, disait-on, les vénérables privilèges de l'Église de Milan. Alors, le résultat fut que Guy, l'archevêque simoniaque de Milan, dut promettre de faire pénitence. Mais c'est pas tout. L'évêque de Luc est élu pape. Et alors Arialde reprend sa lutte avec une équipe. Et cette fois-ci, c'est avec notre autre saint du jour, saint Erlambeau, qui est un ancien soldat et un pèlerin de Jérusalem. Et tous deux se rendent à Jérusalem, à Rome plutôt, et pour s'emparer d'une bannière qui consacrait officiellement leur action, ça leur a été donnée par le Vatican, par le pape. Alors là, l'archevêque Guy, le simoniaque, était retourné à toutes ces actions épouvantables, ou comme on dit dans le temps, dans les textes de l'époque, à sa vomissure. On reprenait ainsi une expression qui vient de haut, puisqu'elle est dans les textes de Saint-Pierre, quand il imite le livre des Proverbes, c'est même dans l'Ancien Testament. Hein. De toute façon, on excommunie enfin cet archevêque simoniaque. Alors, cet archevêque Guy, là, repousse l'excommunication qu'il frappe. Alors là, les patards l'attaquent ouvertement et Guy, l'archevêque, riposte en jetant l'interdit sur la ville tant que notre saint Arial s'y trouverait. Alors celui-ci fut contraint de fuir. Puis là, une nièce de l'archevêque, qui s'appelait Olive, elle a chargé deux clercs, deux religieux, de le supprimer. Imaginez ce qui est arrivé, c'est épouvantable. On lit ça, puis on dit, mais c'est pas possible. Ils l'ont supplicié, notre saint Arial, près du lac Majeur dans le Nord. Ils lui ont coupé les oreilles, le nez, les lèvres, on lui a fait sauter les yeux, on lui a coupé le poignet droit. Oh, est-ce que je devrais vous dire qu'ils lui ont coupé même le membre viril et enfin la langue? C'était le 27 juin 1066. N'oubliez pas, il y a 929 ans. Ces gens qui font ça et qui se réclament de la foi chrétienne ne sont pas des chrétiens, évidemment, ce sont des trafiquants. Des trafiquants d'argent à l'intérieur de l'Église. Ils n'ont rien à voir avec le véritable Évangile. Hein? Alors n'accusons pas ceux qui croient de commettre de tels crimes. Je vous en supplie. Son corps, à notre saint du jour, fut jeté dans le lac. L'archevêque Guy, lui, qui était âprement poursuivi par l'autre saint, saint Erlambeau, qui était l'ami d'Arial, a remis sa démission. Alors là, les patards ont élu le 6 janvier 1072 un clerc qui fut soutenu par Grégoire VII, notre fameux pape bénédictin, mais combattu par l'empereur Henri IV. Alors là, en 1075, un incendie a dévasté Milan. Puis là, ceux qui appuyaient l'empereur Henri IV ont accusé les patards d'en être les responsables, puis ça a suscité des luttes. Et là, notre autre saint du jour, là, qui survit, saint Erlambeau, a été assassiné. Alors, dès lors, le mouvement patard a décliné. Arial, il faut bien le dire, notre saint Arial, notre diacre, comme les hommes de ce terrible 11e siècle, était passionné. C'était un brutal, mais d'une brutalité qui n'excluait pas jusqu'à un certain point, la souplesse, hein, lui arriva d'interrompre la messe d'un mauvais prêtre en l'injuriant, imaginez, en lui arrachant même sa chasuble. Je vous recommande pas ça, là, si vous connaissez un mauvais prêtre. Je ne sais pas s'il y en a des mauvais, mais ne faites pas ça de grâce. Et il a même chassé le mauvais prêtre. Puis après, le bain Arial de Saint-Arial voyait courir à lui dans l'église des furieux, qui étaient armés de gourdins, évidemment, mais son éloquence les a apaisés. Il y avait la même fougue chez notre autre saint, saint Erlambeau, mais la réforme a triomphé, finalement, grâce à la ténacité du pape Grégoire VII, mais elle avait coûté la vie à ses deux plus vaillants soldats, nos deux saints du jour, saint Arial et saint Erlambeau. Erlambeau avait exigé de Guy, l'archevêque simoniac, le corps de saint Arial. On le retrouva intact après 10 mois, puis il a été exposé 10 jours à l'église Saint-Ambroise de Milan, la fameuse église Saint-Ambroise de Milan. Et vers 1100, ben, le corps a été porté à Saint-Denis. Et j'ajoute que Godefroy de Bussereau, à la fin du 13e siècle, ne signalait aucune église, aucun hôtel dédié à nos saints Arial et Erlambeau. On hésitait parce qu'ils avaient été assez violents, n'est-ce pas? D'ailleurs, je tiens à préciser en terminant qu'ils n'ont jamais, jamais été canonisés par Rome, hein? Leur culte, comme saint, c'est un culte populaire. À partir du 16e siècle, on a perdu toute trace des reliques de nos deux saints. La dévotion à Notre-Dame du Perpétuel Secours, dont c'est la fête aujourd'hui, hein, s'est beaucoup propagée depuis 1870 environ. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est grâce d'abord aux ailes des rédemptoristes. Hein. Les rédemptoristes, on les connaît à Montréal. Ils ont une immense paroisse, Saint-Alphonse d'Youville, juste à côté du métro Crémazie. Je vous recommande d'aller à la messe là. Les rédempteuristes sont de bien bons prêtres. Et dans les églises, dans les foyers chrétiens, on voit exposer et vénérer un peu partout l'icône, qui est très populaire depuis ce temps-là, de cette Vierge tenant son Fils. C'est une icône, hein, l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours. On a vénéré cette icône depuis 100 ans et plus, sans trop se rendre compte que c'était une icône de l'Église orientale, de l'Église orthodoxe. C'est le fruit des missions prêchées par les rédempteuristes qui ont propagé l'admiration et le recours à Notre-Dame sous le titre de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Saint Alphonse de Ligori, leur fondateur, a vécu de 1696 et à 1787, et je vous en parlerai un jour, c'est un saint extraordinaire. J'ai lu une brique immense écrite par le père Rémermet que les rédemptoristes de la paroisse Saint-Alphonse m'ont déjà donné en cadeau. Et les rédemptoristes avaient formé dès l'origine une congrégation très fidèle à la Sainte Vierge. Quand on va à la paroisse de Saint-Alphonse, il y a une immense mosaïque de Notre-Dame du Perpétuel Secours à gauche. C'est très, très beau. Elle avait, cette congrégation, adopté comme emblème de sa dévotion, donc l'image de Notre-Dame de Bon Conseil. Et en 1866, la Vierge confia aux rédemptoristes une de ces images miraculeuses, on peut dire, Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est une peinture sur bois de style byzantin du 13e siècle. C'est une icône, quoi. De 52 cm de haut sur 41 de large. Et la Vierge porte sur son bras gauche l'enfant, Jésus, effrayé par l'archange Gabriel, qui lui présente quoi? Il lui présente 4 clous. Ben, au lieu de 3, on sait que c'est 3 clous, d'après Saint-Suaire de Turin. Donc, il lui présente 4 clous et une croix. Cette icône aurait été apportée à Rome vers la fin du 15e siècle par un marchand crétois, n'est-ce pas, un grec. Elle fut placée dans l'église Saint-Matthieu à Rome en 1499. Elle y fut honorée jusqu'en 1812. Et le vieux sanctuaire fut alors démoli, puis la Madone, qui était très populaire, a été remise, on ne sait pas trop pourquoi, dans un oratoire des Pères Augustins. Et c'est seulement en 1866 que les rédempteuristes ont obtenu de Pie IX, l'icône qu'ils ont placée dans leur église, qui était dédiée à Saint-Alphonse, entre deux grandes églises importantes, Saint-Jean de Latran et Sainte-Marie-Majeure. Alors, on a obtenu de nombreuses grâces, dit-on, en priant la Vierge devant cette icône. Et la figure de la Vierge y est grave, un peu triste. Elle semble dire à ceux qui la contemplent, « Voyez comme mon Jésus a peur. » Et c'est à cause de vous, et moi aussi j'ai peur pour vous. Pourquoi ne me demandez-vous point de tout votre cœur le secours que je puis vous accorder? Elle est d'ailleurs appelée depuis très longtemps Auxilium Christianorum, c'est-à-dire le secours des chrétiens, comme disent les litanies de la Sainte Vierge. En somme, la Vierge ne demande qu'à nous venir en aide en tout temps, en tout lieu. Et si nous étions vraiment fidèles à la Vierge, nous saurions comment la prier. Je vous cite une simple petite prière très brève de Pierre Talec. Seigneur Jésus, toutes les générations proclament ta mère bienheureuse. En toi, elle a trouvé le bonheur. Pardon de chercher trop souvent le bonheur ailleurs. Ô Seigneur Jésus, tu as exalté ta mère. Tu élèves les humbles, pardon d'humilier les humbles. Pour elle, Seigneur Jésus, tu as fait des merveilles. Pour toi, que n'aurait-elle pas fait? Pardon alors de ne pas savoir nous émerveiller en elle. La Vierge, beaucoup de chrétiens hésitent à la vénérer vraiment. On ne sait pas trop pourquoi, mais quand on y réfléchit vraiment, est-ce que ce n'est pas rendre hommage à Jésus que d'adresser des hommages à Marie? Quand on visite un ami, n'apportons pas des fleurs à sa mère. C'est normal. Je vous laisse là-dessus, réfléchissez bien. Prier Marie tous les jours, c'est rendre hommage à Jésus et aussi à Dieu, Père de Marie, à l'Esprit Saint par lequel elle a enfanté, et évidemment à son Fils.